C'est pas une vache, c'est un pangolin. Une émission proposée par Maxence Gross avec la complicité de Daniel Raffalin. Maxence Gross a suivi le souffle de l'aventure dans la jungle péruvienne en tant que guide naturaliste, à la tête de groupes de voyageurs auxquels il inculqua les valeurs de sauvegarde de la nature. Il s'adonna au même boulot sur les pistes de safari du Botswana, puis en Argentine, au Chili et en beaucoup d'autres lieux où sa curiosité et les opportunités professionnelles l'appelèrent. Au bout de 10 ans, un peu désabusé devant les attentes des touristes écolos, de plus en plus touristes et de moins en moins écolos, il se replie sur l'Europe. Aujourd'hui, Maxence nous fait partager ses aventures.
Alors aujourd'hui, Maxence, nous quittons Cusco au Pérou pour une nouvelle expédition en Amazonie.
En quittant les chemins rocailleux de la cordillère des Andes, mon expédition s'enfonce d'abord dans la forêt nuageuse, où la hauteur des arbres croît à mesure que l'on perd de l'altitude. D'abord, à 3500 mètres, l'herbe est rase, les arbustes courts et les oiseaux peu nombreux. Le silence domine. Vers 3000 mètres, commence à se dessiner la forêt naine où les arbres aux troncs sinueux émergent timidement. Plus bas encore, l'humidité et la température augmentent et laissent apparaître des fougères, des plantes à feuilles coriaces et de nombreux épiphytes, des plantes qui vivent posées sur d'autres plantes, dont les racines n'ont pas besoin d'atteindre le sol tant l'air est humide.
Alors pourquoi ce nom justement de forêt nuageuse ?
Les vents dominants pousse constamment vers les Andes toute l'humidité qui est dégagée par les milliers de kilomètres de forêt amazonienne en aval. En prenant de l'altitude et en se refroidissant, l'air décharge toute sa pluie sur les flancs est de la cordillère et forme la bien nommée forêt nuageuse. Le camion s'arrête pour que mes passagers soulagent leurs jambes engourdies par le voyage et on découvre alors un habitat unique, des végétaux méconnus qui grimpent les uns sur les autres dans un décor que les voiles de brume nous laissent apercevoir brièvement à leur bon vouloir. Le moteur arrêté, on perçoit les premiers chants métalliques distants d'un groupe ailé en mouvement. Et soudain, dans les jumelles, c'est le coup de foudre. Un tangara montagnard, un colibri héliange clariste, un caliste septicolore, ou même un toucané émeraude. Des oiseaux aux noms et aux couleurs à peine croyables passent par dizaines comme un souffle de plumes, puis disparaissent en quelques minutes, laissant les naturalistes partager entre joie et frustration. C'est là qu'habite un oiseau unique, mais assez facile à observer, le coq de roche. Oiseau national du Pérou, de la taille d'un pigeon, le mâle est de couleur orange vif et porte une crête arrondie sur la tête. Le matin, quelques individus se regroupent pour appeler les femelles dans ce qui s'appelle un lek. C'est un peu l'équivalent de la discothèque pour l'être humain. Les mâles dansent sur des branches et chantent presque toujours au même endroit dans le but de séduire une prétendante. C'est vraiment unique.
Et les plantes sont aussi très nombreuses.
Les plantes sont omniprésentes, elles, et encore plus faciles à observer. Beaucoup moins à identifier, en revanche. La moitié des espèces végétales est ici totalement inconnue des scientifiques. Il s'agit d'un véritable berceau pour orchidées rares, un paradis pour botanistes assidus. La science méconnaît également une grande partie des espèces animales de la forêt nuageuse, comme les insectes ou les batraciens. La forte inclinaison du sol, les 4 mètres d'eau de pluie et l'accès malaisé n'ont pas favorisé l'étude d'un tel écosystème. Notre convoi poursuit son avancée dans la forêt et sa descente vers l'Amazonie en traversant la vallée fertile de Cosniepata. Le ciel se dégage et se découvre sur une immense plaine parsemée de cabanes vétustes le long de la route.
Une plaine habitée donc ?
Oui, d'agriculteurs principalement. Papayes, manioc, ananas, riz, café, bananes et maïs font la relative richesse des paysans du coin. Dans les cultures, on trouve bien sûr des plants de coca, cultivé légalement pour son usage non psychotrope, en infusion ou pour être mâché. Les feuilles séchées et mises dans de l'eau chaude font une tisane délicieuse. Les contrôles sont stricts, car la tentation est grande. Un agriculteur vend ses feuilles de coca 10 fois plus cher à un narcotrafiquant qu'à l'État. mais les terres dédiées au trafic illégal sont hors de notre vue. En tout, il nous aura fallu 2 ou 3 jours pour arriver au cœur de la forêt tropicale amazonienne, dans la partie basse de la réserve de la biosphère du parc, de la biosphère et du parc national de Manu. Avant l'arrivée des Espagnols en Amérique du Sud, les Incas connaissaient la forêt amazonienne et troquaient des biens avec ses habitants. Le parc de Manu tire son nom de la province Inca Mano Suyo. Suyo voulait dire division. Le premier blanc à tenter l'aventure vers Manu fut le conquistador Juan Álvarez Maldonado, en mars 1567. Ses intentions n'étaient pas naturalistes, loin s'en faut. Il partit avec une armée de 250 hommes, 200 chevaux, des armes et des munitions et des provisions de toutes sortes. Il lui fallut 37 jours pour arriver là où nous en avons mis 2 ou 3. Il divisa son armée en plusieurs groupes pour continuer l'exploration, mais les Indiens, les rapides de la rivière, les maladies et la faim anéantirent le gros des troupes. Une poignée d'hommes revint à Cusco, exténués et en piteux état. La région, alors dotée d'une très mauvaise réputation, resta inexplorée pendant 3 siècles, quand, en 1861, un certain Faustino Maldonado, aucune parenté avec Juan Álvarez Maldonado, entreprit d'explorer la rivière Madre de Dios qui borde l'actuel parc de Manu. Toute son équipe et lui succombèrent sous les assauts des Indiens et de la rivière. Décidément, il vaut mieux pas explorer Manu quand on s'appelle Maldonado. Le long de la rivière Madre de Dios, les arbres se penchent comme pour s'abreuver et saluer le passage de notre embarcation. L'équipe de naturalistes a affûté ses jumelles, et le voyage est désormais rythmé par l'observation de martins pêcheurs, de caïmans, de hérons, de vautours, de caracara, et parfois de cabiais, le plus gros rongeur du monde, une sorte de hamster aquatique géant, placide, qui peut atteindre 80 kilos. Notre capitaine, chef d'un bateau à moteur, ne craint pas les rapides qui menaçaient autrefois le néophyte. J'ai toujours été très admiratif de la dextérité de ses pilotes à dompter la rivière. À l'arrivée au camp, l'occasion est enfin donnée de pénétrer à pied cet immense temple naturel. Ce qui surprend d'abord, c'est l'espace au sol. Vu de la rivière, la jungle a l'air impénétrable, faite de bambous serrés, de branchages denses et d'épines agressives. Rien de tout cela à l'intérieur. La canopée, le toit de la forêt, est si épaisse qu'elle ne laisse qu'une infime partie de la lumière atteindre le sol. Sans lumière, pas de plantes. De plus, certaines zones dites inondables voient presque chaque année leurs plantes au sol noyées et évacuées, tandis que les poissons, profitant de la crue, viennent se nourrir de quelques noix, racines ou fruits. Le sol est donc si dégagé qu'un sentier est à peine nécessaire. Alors on découvre des centaines de bois différents, des plantes aux formes curieuses, celles qui fabriquent un vrai tronc, celles qui y grimpent, celles qui les étranglent, celles qui les parasitent, celles qui produisent des épines ou celles qui se contentent d'une petite taille et de peu de lumière. Les fruits tombés à terre ne ressemblent à rien de familier et les effluves, parfois très intenses, chatouillent des souvenirs d'une vie antérieure. Vers la fin du 19e siècle, c'est pourtant une seule espèce d'arbre qui attira un grand nombre d'aventuriers en Amazonie. L'arbre qui, pour se défendre des fourmis découpeuses de feuilles, produit une sève collante et épaisse qui englue les mandibules des insectes ennemis, l'EVA. Suite à l'invention du pneu et de l'automobile, la production de caoutchouc passa de 8000 tonnes par an en 1880 à 27000 tonnes 20 ans plus tard. C'est ce qui fut alors connu comme le boom du caoutchouc. Poussé par une pression économique énorme, le Pérou réalisa alors que 62% de sa superficie était de la forêt tropicale, source potentielle de cet or blanc. La demande fut si grande que retourner à Manu, malgré son passé meurtrier, devenait impératif. Plus question pourtant d'emprunter le chemin de la forêt nuageuse et de la rivière Madre de Dios. Il fallut donc quelques années à un certain Fitzcarald, un Péruvien d'un père américain, pour découvrir un accès par le nord du bassin versant de la rivière Manu. Cela impliquait d'ouvrir un passage de 12 km de long sur 9 mètres de large, dans la forêt, pour y passer la Contamana, un bateau à vapeur. Un travail herculéen qu'il mit 2 mois à réaliser à l'aide de 1200 ouvriers. Le film Fitzcarraldo de Werner Herzog en 1982 avec Klaus Kinski retrace cette épopée. Pris à revers et dépassés en nombre, les Indiens qui jadis massacrèrent les Maldonado furent rapidement mis hors d'état de nuire, tués ou réduits au rang d'esclaves. Fitzcarrald s'associa alors à un riche Bolivien et entreprit d'exporter le caoutchouc de Manu par bateau et voie ferroviaire vers Iquitos au nord du pays par son passage nouvellement créé. C'est alors que le destin intervint encore en faveur de Manu. En juillet 1897, les deux nouveaux associés périrent noyés dans un accident de bateau. Loin d'imaginer le passé tumultueux du parc national, mes passagers explorent avec moi l'immense cathédrale verte de la forêt amazonienne. On s'attend alors à voir des milliers d'espèces d'oiseaux et de singes batifolés au-dessus de nos têtes, comme ils nous ont dit à l'agence. On craint l'approche du jaguar au détour d'un figuier, comme on a vu à la télé. On se demande où se cachent tous les serpents, tous les papillons, toutes les grenouilles, toutes les araignées qu'on nous avait promis. La deuxième surprise de l'explorateur en Amazonie est donc l'apparente absence de vie animale. La diversité est souvent synonyme de faible abondance. Ça n'est qu'après un peu de patience, avec de bonnes jumelles, que les premiers êtres de la forêt montrent le bout de leur nez, ou de leur queue. « Ça y est, je l'ai vu, sur la branche, là-haut !» Un bruissement et l'oiseau disparaît. Tous les regards se portent alors vers le guide d'identification. En vain. « Ah, je n'ai pas bien vu si les pattes étaient rouges ou roses. » Après 3 ou 4 épisodes similaires, nous comprenons par la force des choses ce qu'est la biodiversité. Mais nous nous apercevons qu'elle n'est pas uniquement source de frustration, bien au contraire. Après quelques incursions sous la voûte gigantesque des capoquiers, on tombe sur des saïmiri, de petits singes curieux et joueurs, dont les cris ressemblent davantage à ceux des oiseaux. Puis sur des capucins, des singes hurleurs, des singes araignées, des sagouins empereurs, de petits primates aux longues moustaches courbes, des toucans, des aras, des perruches, des colibris, des pics, des caciques, et bien d'autres. C'est ça aussi la biodiversité. Toujours rencontrer une nouvelle espèce. Et la richesse spécifique de la région n'avait certainement pas échappé à un certain Celestino Kalinowski, un naturaliste taxidermiste polonais né au Pérou. Après un départ retardé dans la course au caoutchouc, la région de Manu vit rapidement arriver la fin de la demande en latex vers 1914, date à laquelle on inventa le caoutchouc de synthèse, et fut abandonné encore une fois pour le plus grand bénéfice des animaux, autrefois chassés par les exploitants. C'était la fin de l'épopée du caoutchouc en Amazonie. 40 ans plus tard, Kalinowski étudiait la faune du sud-est péruvien et envoyait des spécimens empaillés à l'Institut du Smithsonian de Washington, au Muséum d'histoire naturelle de Paris et à d'autres établissements de renom. Au début des années 60, alors que le commerce de fourrures et de bois tropicaux prenait son essor, le Polonais avertit instamment le gouvernement péruvien de la situation et tira le premier signal d'alarme écologiste du pays. Au nom de la science, il se dressait en défendeur actif de la faune de Manu et encouragea la création d'un parc national. Manu fut donc créé en 1973 et classé réserve de la biosphère 4 ans plus tard par l'UNESCO. En 1987, il fut même déclaré patrimoine mondial de l'humanité. Dans un enchevêtrement de plantes si complexes, si denses, si variées, avec des lianes qui relient les arbres entre eux comme s'ils se tenaient par la main, avec des géants de 60 mètres, 70 mètres, 80 mètres, Il est difficile de croire que le sol amazonien est en réalité très pauvre. Les conditions de chaleur et d'humidité ne laissent pas le temps aux débris végétaux de former la couche fertile d'humus que nous connaissons dans nos forêts de hêtres ou de chênes. Toute feuille tombée au sol est immédiatement décomposée par les champignons, découpée par les fourmis, absorbée par les bactéries. Toute branche détachée de son tronc est instantanément transformée en sciure de bois par les termites. Tout fruit mûr est consommé, ingurgité, digéré, recyclé. Il est généralement admis que la couche fertile du sol n'est guère plus épaisse qu'une dizaine de centimètres. Pour y faire face, les arbres qui hissent d'énormes troncs de plusieurs dizaines de mètres de hauteur, de plusieurs mètres de diamètre, se sont adaptés en développant des racines contreforts, ou aériennes, permettant d'accroître leur stabilité. On a même prouvé que certains palmiers, peut-être pour se rapprocher d'une zone de sol plus riche ou mieux éclairée, parvenaient à se déplacer de quelques centimètres à peine par an, en développant leurs racines aériennes d'un côté du tronc et en laissant pourrir celles situées de l'autre côté. On peut presque dire qu'ils marchent.
Est-ce à dire, Maxence, que l'Amazonie est pauvre ?
Alors non, la richesse en nutriments de l'Amazonie est réelle, mais elle se trouve en fait dans les végétaux eux-mêmes. Les premiers agriculteurs ont été bien déçus de voir que leur récolte n'offrait pas la luxuriance de la forêt tropicale. Évidemment, une fois la forêt coupée, les arbres débarrassés ou brûlés, eh bien le gros des nutriments était retiré du sol, était retiré, et le sol est exposé au soleil brûlant et aux pluies torrentielles qui lessivent le peu de terre de sol fertile accumulé. La forêt est un tout. Elle ne peut être séparée de son sol, ni de ses animaux, ni de son taux d'humidité ou de sa chaleur. C'est un ensemble qui a survécu aux glaciations et a mis 75 millions d'années à forger ses relations complexes, à développer ses milliers d'espèces, à mettre en place ses systèmes relationnels entre plantes et animaux, en bref, à accomplir l'extraordinaire exploit de devenir forêt tropicale. Une visite de la canopée s'impose à mon groupe d'explorateurs du XXIe siècle, pour découvrir les secrets les plus tardivement révélés par l'Amazonie. L'ascension sur un escalier en colimaçon le long du tronc colossal d'un capoquier est longue et épuisante, mais l'effort est récompensé. Sous nos yeux, à perte de vue, s'étale un océan vert dont les vagues immobiles ne sont interrompues que par le tracé sinueux des rivières. Et l'on s'aperçoit très vite que les conditions physiques sont très différentes. Il fait très chaud en plein soleil, la lumière vive nous fait fermer les yeux à demi, et les moustiques du sol ont été remplacés par des trigones, de toutes petites abeilles sans dard, qui cherchent de l'humidité et s'agglutinent autour de nos yeux, narines, bouche et oreilles. Les oiseaux aussi ont changé. Ici, ce sont les grandes espèces de toucans, les aras, les perruches et les dachnis, de petits oiseaux bleus et verts, qui ont établi leur territoire. Sur les branches des géants, sans aucun lien avec le sol, poussent des cactus, apportant la preuve d'un milieu très sec. Les contraintes des plantes tropicales sont radicalement différentes selon qu'elles se trouvent au sol, faible lumière, hygrométrie élevée, température relativement basse, ou vers la canopée, lumière abondante, climat sec, température dangereusement haute. Pour éviter les pertes d'eau, les feuilles sont petites et dures sous le soleil, et pour gagner un maximum de lumière, elles sont larges et sombres au niveau du sol. Les frondes des palmiers, en termes botaniques, ce sont des feuilles géantes qui peuvent dépasser 6 mètres de long. La lumière est donc le nerf de la guerre, c'est l'or des végétaux, source de conflits séculaires et d'adaptations innombrables. Elle est si précieuse que nombre de plantes ont choisi de commencer leur vie au sommet de la forêt, en se faisant déposer gracieusement sur une branche dans les déjections d'un oiseau, d'un singe ou d'une chauve-souris. Alors certaines envoient de fines racines vers le sol pour s'alimenter en minéraux et en eau, profitant allègrement de leur hôte pour rester proche de la lumière. Une espèce a même poussé l'adaptation encore plus loin et va jusqu'à encercler son hôte de ses racines et littéralement l'étrangler dans une lente et cruelle lutte pour la vie. J'ai nommé le figuier étrangleur. Après quelques décennies, l'hôte va dépérir, pourrir et disparaître. L'étrangleur aura alors formé son tronc, creux dans un premier temps, puis il se refermera et appartiendra à la catégorie des arbres géants, aux racines contreforts et aux branches baignées dans la lumière de la canopée. Pourtant, lui, il a commencé sa vie en haut. Au détour d'un chemin, on aperçoit une étendue d'eau calme dont la rive opposée n'est pas loin, une centaine de mètres. Sur un radeau silencieux, poussé par deux pagaies, ma tribu voyageuse glisse sur les eaux lisses d'un ancien bras de rivière. Ces lacs de retenue d'eau sont toujours plus ou moins arqués et longilignes de naissance, puisqu'ils sont les vestiges de courbes trop aiguës de la rivière. Lors d'une crue, le courant aura fini par couper au plus court, isolant un tronçon de rivière où l'eau ne coulera plus jamais. Un nouvel habitat est alors formé et ouvre ses bras à des centaines d'espèces spécialisées qui se laissent observer dans un décor des plus prestigieux. Parmi elles, un petit oiseau, jaune et noir, répondant au nom étonnant de « tyran sociable ». Le long des berges dans l'eau calme, il n'est pas rare, un manou, de surprendre quelques têtes curieuses de loutres géantes. Les plus grandes et les plus rares du monde totalisent 180 cm du museau au bout de la queue et sont les grands carnivores les plus couramment observés en Amazonie. Afin de réunir les 3 à 4 kg de poissons quotidiens nécessaires, elles partent en chasse dès l'aurore, perçant le silence matinal de leur couinement et leur grognement. Le spectacle ne manque pas de charme. Les yeux vissés aux jumelles, on distingue la main de l'animal serrée sur un piranha fraîchement harponné, et la loutre qui entame son petit déjeuner en tâchant de ne pas se le faire dérober par un membre de sa famille. Elles aussi ont vu leur destin frôler l'extinction. Dans les années 70, le Brésil exportait 20 000 de leur peau, et si un signal d'alarme n'avait pas été tiré au début des années 80, cette espèce serait sans doute venue grossir la liste des animaux disparus. Malgré une haute protection et quelques maigres espoirs, la partie n'est pas encore gagnée pour le grand carnivore aquatique amazonien. Insoucieux de ses affaires, les martins-pêcheurs et les hérons contemplent la surface calme du lac, alors qu'un oasine manque de perdre l'équilibre. J'ai guidé une famille de Français qui arrivait de l'Équateur, où leur guide leur avait montré cet oiseau. Dès qu'ils l'ont vu, ils m'ont dit « Ah, ce gros poulet, c'est Watson !» Il m'a fallu quelques minutes pour comprendre que Watson, c'était la déformation de « Howatson » en anglais, avec l'accent espagnol du guide équatorien. Quel oiseau étrange que cette oasine, avec sa tête de punk, ses plumes beiges, sa peau bleue sur la face et son air préhistorique. Descendant direct d'Archéoptérix, ce volatile de la taille en effet d'un gros poulet possède un estomac compartimenté comme celui des vaches et autres ruminants. C'est le seul oiseau ruminant du monde. Il ne se nourrit que de feuilles, vole très mal et son jabot surdimensionné, permettant la fermentation de la cellulose, lui donne des airs d'équilibriste en détresse. Sa maladresse et son vol pénible en feraient une proie facile, et s'il ne se trouve pas cuit au vin dans les marmites péruviennes, c'est grâce à son odeur repoussante. Comme quoi. Manu nous réserve encore une étonnante surprise, un véritable bouquet final, le clou du voyage naturaliste. Les rivières sinueuses de l'Amazonie coupent parfois au travers de basses collines et créent alors de petites falaises sur les berges. C'est l'endroit qu'on choisit. Des milliers de perruches, de perroquets et d'aras de toute espèce et de toutes les couleurs pour venir prélever une béquille d'argile chaque matin. Ce véritable lieu de pèlerinage est appelé une colpa par les locaux.
Alors curieux que cette façon qu'ont les oiseaux de manger de l'argile.
Oui, ces oiseaux se nourrissent de fruits verts, donc pas mûrs, et de graines, souvent très acides et très toxiques, qu'ils cassent sans difficulté grâce à leur bec très puissant et parfaitement adapté à cette tâche. Dès lors, l'acidité et les toxines s'accumulent dans leur organisme et un peu d'argile ingurgitée régulièrement contribue à diminuer cette acidité et à neutraliser les substances toxiques. Dans un essaim de rouge, vert, bleu et jaune, des centaines d'oiseaux volent, arrivent, repartent, se bousculent en poussant des cris autour de la falaise dans un assourdissant feu d'artifice naturel, unique. Le soir, autour de la soupe, les débats vont bon train entre les aventuriers. Les machecopiros alimentent copieusement les théories, les rêveries, les remises en question et les souvenirs des merveilles découvertes dans la journée ont du mal à se différencier des rêves éveillés. Le parc national de Manu aurait sans doute connu la notoriété des Galapagos si Charles Darwin avait eu la possibilité de s'y rendre. L'Amazonie est un monde surréaliste et extraordinaire, où des poissons mangent des noix dans la forêt et côtoient des tyrans sociables, des sagouins empereurs, des palmiers marcheurs, des oiseaux qui ruminent, des hamsters de 80 kilos, des arbres qui poussent de haut en bas et des singes qui gazouillent en sautant sur des feuilles de 6 mètres de long.
Voilà, c'est pas une vache, c'est un pangolin, et terminé pour aujourd'hui. On se retrouvera pour une nouvelle aventure et on suivra Maxence le mois prochain. Je rappelle que cette émission est mensuelle. Vous pouvez l'écouter le premier lundi du mois à 11h30, le second mardi à 16h, le troisième jeudi à 19h10 et le quatrième vendredi du mois à 23h30. Tous ces horaires, bien sûr, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, alternantefm.net. Je rappelle également qu'à l'issue de ces diffusions, l'émission est disponible en podcast. À très bientôt.